Ah oui, et le premier, il y a que ça. Et le second, ça existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 223. 223 déjà. Et de l'autre côté de la France, n'est-ce pas?
Oui, bah oui, complètement, de l'autre côté de la France, vraiment, littéralement, voilà. Prenez la France, Ah, Daniel est d'un côté, moi je suis de l'autre, voilà, c'est le principe
Stéphane
de l'autre côté.
Boulet. Stéphane, non mais tu sais quoi, vive Internet hein, quand même,
qui nous permet de faire ça. Effectivement.
Comment va ta connexion Internet, Stéphane?
Eh ben écoute, ma foi, elle se stabilise, voilà, là c'est un jour avec, donc tant mieux.
Ah, ça veut dire que tu télécharges pas des jeux.
Voilà, les meilleurs discours de Jean-Louis Debray, voilà, en 4K, comme je fais d'habitude.
C'est quoi, c'est pas le pire, hein.
Ah non, c'est pas le pire. Mais j'ai pensé parce qu'il nous a quittés, c'est pour ça.
Bah oui, bien sûr.
Voilà, il a traversé l'esprit. Et c'est vrai qu'on a un temps où finalement on en vient à regretter Jean-Louis Debray, tu vois.
Non mais tu sais quoi, je remercie Jean-Louis Debray de nous avoir donné ce livre. Ce livre, un jour tu le raconteras. Ou c'est Chirac qui lui a dit non.
Ah, mais c'est, ah oui, mais oui, ouais. C'est vrai, c'est lui, mais oui, exact.
Et on a lu un bout de son livre. Et,
c'est vrai, tout à fait. Je me souviens.
Et honnêtement, j'ai failli me fendre une côte tellement c'était... Non, parce qu'il avait l'air gentil, mais tu sais quoi, ses ennemis le trouvaient con-con. Mais du coup, ça l'a rendu plutôt gentil, en fait.
Bah, aujourd'hui, c'est devenu une qualité, en fait, j'ai envie de dire, tu vois. C'est globalement, moi, quelqu'un qui me dit, ouais, cet homme politique, il a l'air vraiment sans pitié. Je fais, hop.
Non, mais il a perpétué un peu cette tradition anti-sarkozyste aussi, qui est...
qu'on ne peut qu'apprécier.
Oui, c'est... Tu connais le dicton de Chirac, hein, Sarkozy, faut marcher dessus du pied gauche, ça porte bonheur, quoi. Mais c'est Chirac hein, qui disait ça.
Ben, écoute.
Alors, bien sûr, ce n'est pas un podcast politique. Rappelons-le.
C'est pas un podcast politique. Alors, le plus étrange, c'est que ça fait quand même deux podcasts de suite où il y a des vagues tentatives que je fais, que j'enregistre, et où il y a des vagues tentatives de réhabiliter Jacques Chirac. On vit vraiment une époque assez étrange, quand même.
Alors que... on est, faut vous le dire, hein, l'équipe du RPU au grand complet est dans les starting blocks pour l'update du Super Président Battle.
Oui, ouais, tout à fait.
Le seul numéro où on va parler politique.
Bah le seul. Et voilà, et encore vaguement de loin.
Maintenant, il faudra que tu me dises après quel est ton préféré, Macron 1 ou Macron 2.
Oh putain.
mais tu sais quoi? Ce n'est pas encore terminé, donc gageons que, comme on dit dans la presse de jeux vidéo, gageons que. Ça se trouve, la deuxième session sera meilleure que la première.
Oui, oh bah, je l'écoute.
C'est exactement ce qu'est en train de se dire Benji aux États-Unis.
Hein. c'est exactement ça. Ouais. Effectivement, bah écoute, ouais, je ne sais pas. Attendons que tout cela se termine, mais je sens que ça va être...
Stéphane, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
C'est vrai.
Comment tu vas?
Ça va.
Ça va. Il n'y a pas pas d'année crush. Bientôt les vacances, non, rien.
Non, bah j'ai repris. Là, ça fait qu'une semaine qu'on a repris, donc si tu veux, ça fait un peu court.
Deux semaines. Ah, mais non, pour vous, oui, c'est vrai que maintenant, je découvre qu'on n'est pas en vacances au même moment.
Exactement, on a des vacances décalées.
D'accord.
Voilà.
Et Stéphane, nous sommes dans les années 80.
Non, on est dans les années 2020, Daniel. Ça fait.
On va pas avancer, Stéphane. On va faire un film et tu l'auras dans le baba, comme on dit, comme dirait un autre philosophe de la télé.
Oui. Oh putain, non. C'est pas possible. C'est vraiment l'émission de tous les dangers.
Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais quoi, le truc, c'est que ma détestation de CNews et tout ça est tellement sans filtre que même des gens qui, tu vois, qui gravitent dans ces... Je peux pas m'empêcher, quoi. Je les déteste, quoi. Je peux pas m'empêcher.
Oui, bah, c'est comme si tu disais à un moment donné, je ne déteste que Himmler, tu vois. C'est pas possible. Voilà, c'est quand même globalement, les mecs qui étaient autour de lui, t'as un peu tendance à les détester aussi.
T'es con. Alors que un bon ministre de la communication, voilà. Quoi.
C'est ça. Un bon ministre de la vérité.
Un ministre de la communication.
Voilà, bon ministre de la vérité, c'est ça qui nous manque.
Alors, Steph, on est trêve de parlotte, trêve de politique, ça suffit. Tu n'es pas là pour noyer ton chagrin politique dans le marbre.
C'est ça, non, pas du tout.
Rappelle-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer, pour les gens qui pourraient croire qu'on parle de cinéma au bout d'un moment dans ce podcast.
C'est ça. C'est ceux qui se sont trompés, qui se sont dit, tiens, avec un nom pareil, ils vont peut-être parler de cinéma. C'est complètement faux, c'est vraiment pas le but. Mais si jamais vous voulez tenter votre chance, effectivement, il faut nous envoyer une liste, trois films par liste, à l'adresse suivante, supercinébattle@gmail.com. Et si vous avez la chance, alors vous mettez une petite thématique, un petit titre, et éventuellement même peut-être un petit texte rigolo pour essayer de justifier d'attirer l'œil finalement de Daniel qui sera la personne qui va tirer les listes et qui va les choisir pour qu'on on en discute. Et une fois qu'on a choisi une liste, eh ben, on évoque les trois films si on les a vus, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ce n'est pas toujours le cas, surtout que ça commence à devenir un peu difficile. Alors, en sachant qu'on a on approche des 300 films dans les années 80, quoi.
Oui, et puis on a fait le calcul juste avant. On est à plus de 1100,
1200 films, ouais.
Pratiquement 1200 films classés. Donc effectivement, on arrive au stade où tout doucement, si on cherche des films qu'on n'a pas encore classés, on va peut-être tomber dans des films qu'on n'a pas vus parce que on va vous divulguer. Je sais que ça peut être une déception pour beaucoup d'entre vous, mais on n'a pas vu l'intégralité des films qui ont été produits sur Terre depuis l'invention du cinéma. Voilà.
Pas tous les films de le cinéma.
Voilà, c'est voilà, ça, exactement.
Il nous en manque quelques-uns. Mais tu sais quoi, c'est comme les Pokémon, c'est un peu le travail de notre vie maintenant. Hein.
Bah complètement, c'est notre mythe de Sisyphe à nous. Voilà, c'est effectivement, à chaque fois qu'on continue de monter la pierre du marbre en haut de la montagne de la cinéphilie, il y a quelqu'un qui rajoute un étage à la montagne. Bah c'est comme ça.
Mais c'est pour ça qu'il y a des films qui sortent encore. Par exemple, tu pourrais aller voir Parthénopée.
Ou pas. Ou pas, hein, ou pas globalement.
Qui est le film dont on est sorti avec Jérôme de la salle, on a dit « Ce film, c'est une merde !»
Je ne décris rien sur ce film, c'est une merde.
Ah, c'est vraiment, c'est genre, j'ai rarement vu un truc aussi grotesque. Écoute, que ça.
J'ai même pas pris le temps d'aller voir le dernier Bong Joon-ho, donc est-ce que vraiment tu penses que j'irai voir Parthénopée avant, tu vois?
Eh ben tu sais quoi, c'est le moment où on va parler un peu cinéma avant, cinéma actualité. Le dernier Bong Joon-ho, tu sais quoi, il est pas mal. C'est un très bon film d'un réalisateur qui a fait beaucoup de qui a fait quand même quelques chefs-d'œuvre. Et j'aime pas dire quelques chefs-d'œuvre, mais on va dire qu'il a early chefs-d'œuvre, il a chefs-d'œuvre tardif, tu vois. Et c'est son moins bon film. Mais
c'est comme si tu disais le moins bon film de Kurosawa, c'est ça que tu es en train de me dire?
C'est la comparaison qu'on fait en général. C'est le moins bon. C'est quoi? C'est genre. C'est Rhapsody en doute à l'échelle de Kurosawa. Tu sais quoi, et j'aime bien Rhapsody en doute, il y a Richard Gere et tout, machin, truc, mais c'est pas son film le plus ouf, tu vois.
Oui, je vois.
Ou tu vois, ou Rêve, même Rêve, tu vois, genre, ok, je vois ce que tu voulais faire. Mais, et c'est très bien, mais voilà, c'est... Tu peux être le rêve d'un mec qui a réalisé...
Oui, c'est ça, voilà.
Qui a réalisé Yojimbo.
C'est ça, à un moment donné, peut-être tu peux te le permettre.
De Rashomon, tu vois, tu sais, au bout d'un moment. Mais c'est ça, hein, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as vu le rêve de Francis Ford Coppola?
Le rêve de Francis... Il y a un film qui s'appelle Le Rêve ou tu parles de Mégalopolis?
Non, ça s'appelait Mégalopolis, voilà.
Ouais,
c'est ça,
j'ai vu Mégalopolis, effectivement.
Alors, est-ce que t'avais aimé?
Non.
J'ai hâte qu'on le classe. Ouais, ah, mais non, on a encore... On a encore 1200 jours ou 1300 jours, là.
C'est ça, on a encore pratiquement autant de jours qu'il y a de films dans le marbre, avant de le classer.
C'est vrai, mais...
C'est vertigineux, dit comme
mais
ça, c'est vertigineux.
Est-ce que Mégalopolis, ce serait pas peut-être notre barbasse des années 2020?
Ça peut être rigolo de l'évoquer, effectivement.
Parce que, tu vois, c'est nul, hein. Enfin, c'est pas ouf.
C'est pas très bon,
mais on
va trouver pire.
On va trouver pire que ça.
On va trouver pire, c'est
on
clair.
On va trouver pire, mais facile.
Mais c'est vrai que c'est un bon sujet, effectivement. Je suis d'accord qu'effectivement, Mégalopolis, comme barbasse, ça peut être rigolo, ouais.
Je commence déjà à y penser. Et qu'est-ce qu'on mettrait comme barre haute? Un bon film, que tout le monde est d'accord, mais... Parce que c'est dur, hein, tu vois, c'est genre... Et en plus, c'est difficile à déterminer, comme ça.
Ouais, et puis en plus, voilà, on est finalement encore dans la première moitié des années 2020.
Donc on va forcément, il faut penser plutôt aux films des années 2021, tu vois.
C'est ça, ouais. C'est...
Est-ce que, en parlant de ça, est-ce que tu as vu, parce que c'est des questions que j'ai posées à Benji. On n'a toujours pas commencé le podcast.
On a parlé un peu de cinéma quand même.
Ouais. Est-ce que tu as vu que Luc Besson sort deux films cette année?
Alors j'ai vu qu'il en sortait un, mais deux non.
Alors il a le film sur Dracula.
Ouais.
Rien à voir. Mais si, si, bien sûr. Mais il n'a rien à voir avec l'autre. Mais bon, on t'imagine qu'il va. Et surtout, il sort une rom-com tournée, méga, tournée à l'iPhone pendant le Covid.
D'accord, ok.
T'as été au courant duquel ?
J'étais au courant du projet avec Danny Elfman, donc je pense que c'est le Dracula.
Donc oui, alors l'autre, c'est... voilà. Mais, et l'autre, c'est une rom-com tournée à la va-vite et sans doute un scénario écrit à la va-vite.
Non,
et
non.
Tu sais quoi, quand tu vois le trailer, tu te dis... ok, tu sais, même les commentaires sur YouTube, les gens disent... Ah, je pensais le cliché de la Manic Pixie Dream Girl disparu. Heureusement, Luc Besson est là. Puisque c'est un mec un peu pato qui se fait happer par... une belle fille aux cheveux courts qui va lui montrer ce que c'est que la vie. Et elle va lui montrer ce que c'est qu'être un homme, j'imagine aussi, tu vois. C'est ça, un peu ça, le but de tout film de Luc Besson, finalement. Et ça me fait frissonner d'angoisse, parce que ça a l'air d'être son... C'est potentiellement son plus mauvais depuis Dogman et Angela.
Alors, étant donné que Dogman, c'était juste celui qui l'a fait avant.
Non, mais tu sais quoi ? It keeps on coming, tu vois, c'est...
Mais oui, écoute... ça va être rigolo. On est d'accord que c'est pas un blockbuster. Hein.
Alors celui qui sort à 2 francs 6 sous, non.
Non, on est d'accord. Parce que, voilà, on l'épargnera à Benji.
Mais
quoi.
On fait Parle à Montluc. Ah, on s'est dit avec Benji, faut faire Parle à Montluc cette année.
Oui, bah écoute, ça pourrait être un bon support.
Et bah tu sais quoi, je pense que c'est le moment de faire Le Grand Bleu. Je pense que c'est le moment.
Ah, tu crois ? Eh ben écoute, pourquoi pas ?
Est-ce que t'es prêt pour faire Le Grand Bleu dans les...
Moi, bah, j'étais prêt dans Le Ventre de ma mère.
Oui, oui, ça va être horrible. ça va être horrible. Ramène-moi le petit français. Stéphane, est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs comment faire pour... Ah ben non, tu leur as dit.
Mais je leur ai dit, parce que eux, contrairement à toi, ils écoutent, tu vois, ouais, quand je parle. C'est la différence.
Tu t'appelles comment ?
Bonjour, vous êtes qui ?
Et Stéphane, quels sont les films qu'on a vus la fois dernière ?
Quel qualificatif ? les films qu'on a vus la dernière fois, eh bien, nous avons vu. Je vais y arriver parce que, en fait, j'ai perdu l'onglet parce que, tu vois, je suis tellement bien préparé. 226, on a vu le film avec, malheureusement, Gene Hackman qui, entre-temps, on est vraiment désolé.
C'est pas rien à voir avec nous. Hein.
Vraiment, on y est pour rien. Quoi. Puis
c'est pas le Death Note. Hein.
Si on devait choisir, c'est pas lui qu'on aurait choisi, tu vois, enfin, globalement. Mm. Voilà, Les Coulisses du Pouvoir, Richard Gere, Gene Hackman, donc, et
Denzel.
Et Denzel, évidemment.
Très young Denzel.
Ouais, très young Denzel, un film où tout le monde est en moustache, et ça, c'est cool. Arrivé 130e.
Hum. Mm.
Ensuite, nous avons...
Devil Story,
le cheval du diable, qui arrive à la 270e place. Moins bien classé, du coup. Hein, voilà, si vous avez quelques notions de mathématiques, vous verrez que c'est moins bien classé.
Et encore un peu au-dessous...
Voilà, mais... Surf Nazi Must Die, qui, malgré son titre, arrive quand même très bas chez nous. Alors, ce qui est une vraie surprise.
Il faut le dire avec la même intonation que le trailer. Surf Nazi Must Die. En rappelant que c'est un de ces films dont le trailer est vraiment mieux que le...
Mieux mais que le film, ouais.
Souvent, j'ai envie de dire que souvent avec les nazis, souvent les films d'exploitation avec des nazis, souvent le trailer il est vraiment bien et ça déçoit. Je pense à Sisu.
Oui.
Sisu, le trailer, il m'excitait. Genre vraiment à un point physiologique, tu vois. Genre, je veux ça maintenant. Et je vois le film et je fais bon, ok, d'accord, le début était bien.
Non, je suis d'accord, effectivement. Le trailer est mieux que le plus intéressant que le film. Le film est pas mal, mais bon, c'est pas le même niveau de. Disons que le problème, c'est que toutes les promesses sont dans le trailer, quoi. Donc, il nous restait pas grand chose derrière, quoi.
Ouais. Pourtant, ça part d'une bonne idée, quoi, les lancers de mines.
Oui, pourtant, ça part d'une bonne idée.
Et qui lance des mines, c'est génial.
En parlant de Surf Nazi Must Die, je sais pas si t'as vu, mais. Parce que Surf Nazi Must Die, donc Trauma, donc Toxic Avenger, il y a le Toxic Avenger avec Peter Dinklage qui va sortir.
De quoi ? il ressort ?
Ils refont une nouvelle version de Toxic Avenger avec Peter Dinklage dans le rôle titre.
Non, ah, ça part très mal.
Est-ce que c'est vraiment pas la mauvaise idée, quoi ?
C'est une mauvaise idée, je pense.
Alors, le seul truc qui peut être bien, mais on sait que ce sera pas le cas, c'est de profiter de faire ce remake de Toxic Avenger pour faire ce que Toxic Avenger faisait à son époque, c'est-à-dire être un film qui essaye d'être cracra à un poil politique. Je suis persuadé que la nouvelle version sera complètement expurgée de tout ce qui pourra potentiellement vexer certains acheteurs de voitures moches électriques, quoi.
Mais non, c'est pas, je pense pas.
Oh oui, le courage du cinéma hollywoodien en ce moment, tellement.
Ah, et tu sais quoi, j'étais presque déçu, enfin presque déçu, non, j'étais déçu par l'apolitisme.
Des Oscars.
Des Oscars.
Ah bah, non, mais
j'ai rarement vu ça, quoi.
Incroyable, incroyable. Non mais c'est fin.
Ils ont tous fermé leur gueule, quoi.
Ouais, non mais c'est fin. Et en même temps, enfin, je déçu mais pas surpris finalement, parce que enfin tu vois là, les tendances actuelles, etc. Enfin je. Voilà,
non mais on parle d'un moment où comment il s'appelle Robert De Niro, il est arrivé sur scène en disant fuck Trump, c'est tout. Il dit,
oui.
Voilà,
mais.
Bon. Surpris. Non, moi j'étais surpris qu'il n'y avait pas de. Il n'y a pas de truc. Il y a eu des appels de pied à l'Ukraine. C'est peut-être le moment de le rappeler que les États-Unis étaient jusqu'à au début de ce podcast.
Oui,
c'est ça.
Oui, parce que voilà, au moment où les Oscars étaient diffusés, il n'y avait pas encore eu le clash. Et même si on sait tous que globalement, quand même. Trump, c'est une des marionnettes de Poutine. Voilà, il n'y avait pas encore eu le clash, donc c'était pas vraiment officiel, donc on pouvait vaguement faire des allusions positives à l'Ukraine. Maintenant, je crois que c'est fini. Le mot d'ordre, il est passé. C'est...
Alors maintenant qu'on a bien réussi à cliver, ou c'est-à-dire que se débarrasser de tous les gens qu'on n'aime pas, par exemple,
oui,
ces choses-là, c'est le moment de rappeler que ce podcast existe grâce à votre soutien, patreon.com/rpu. Grâce à vous, grâce à patreon.com/rpu, ça permet d'alimenter ce podcast et de le produire carrément, puisque c'est grâce à ça qu'on continue. N'est-ce pas, Stéphane ? Grâce à ça, tu peux même aussi avoir des activités culturelles comme profiter du cinéma.
Oui, comme profiter du cinéma, aller voir Parthenopée au cinéma.
Voilà.
Ou bien, plus intéressant, ma dernière séance, qui était quand même d'aller revoir le final de L'Attaque des Titans, donc... En un film de 2h30 avec toute la famille.
Ah putain, tu sais quoi, j'y repense souvent à ce final parce que c'est genre, tu sens que les animateurs, ils étaient à fond dedans, ils avaient du budget et ils se sont dit c'est la dernière fois qu'on fait les mouvements avec les trucs en 3D, là, les mouvements
voilà,
3D.
Le tridimensionnel, ouais.
Le tridimensionnel, ils se sont dit c'est la dernière fois qu'on peut le faire, on va se donner à fond. Et tu sais quoi, ça se voit. C'est genre, pshou, pshou, ça va dans tous les sens. C'est ce que j'aurais voulu voir sur un film. C'est un film Spider-Man, ça aurait pu être donné ça, quoi.
Ça aurait pu donner ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'ai regardé quasiment coup sur coup ça et juste avant le dernier Captain America, où t'as la fameuse séquence en Chine là, de vol avec les avions. Et,
ah, au Japon.
Ouais, c'est pas en mer de Chine
Non, je crois que c'est l'armée de l'air japonaise. Mais
ah oui, c'est l'armée
de l'air
japonaise, oui.
Ils n'ont pas beaucoup d'avions normalement, voilà. Tu vois. C'est ça.
Et en fait, le différentiel en termes de mise en scène, de scène aérienne, quand j'y ai repensé, j'ai fait putain quand même. Ça, voilà.
C'est un film. Oui, c'est pas le même niveau. Mais tu sais que c'est un film qui a été fait avant, qui est les 25% de taxes des produits japonais aux États-Unis.
Ah, oui.
T'imagines la Switch qui prend 25%. Mais surtout, c'est un monde où. Ils se sont pas dit genre et on a des bases militaires chez eux, pourquoi on serait en guerre économique contre eux. Non mais genre ça n'a pas de sens, genre que pourquoi t'irais te fracher avec les Canadiens, c'est les mecs les plus peace and love du cosmos, c'est les mecs les plus cool du cosmos, le Canada. Pourquoi, et je le dis pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs au Canada, on en a peut-être quelques-uns, on vous embrasse, mais c'est les mecs les plus cool du monde au Canada, pourquoi t'irais te faire chier avec eux?
Bah parce que justement, dans l'imaginaire américain de 2025, ça en fait des poussies, tu vois.
Ouais,
je pense que une partie du truc, c'est ça. C'est vraiment juste du pur du concours de quéquettes, quoi.
Ouais, c'est un peu du virilisme mal placé. Enfin, virilisme tout court.
Oui, du virilisme tout court. du coup, du virilisme.
écoute, maintenant qu'on a parlé de tout ça, est-ce qu'on se lancerait pas dans le cinéma?
Oui. C'est ça, on va se lancer dans... Allons terminer, essayer de terminer le cinéma.
Et
c'est
on
notre
va
ambition.
Terminer le cinéma d'abord parce qu'on va faire un retour dans rien puisque j'ai fait un devoir de vacances.
Oula, mais quel devoir de vacances as-tu fait, Daniel?
J'ai vu Spookies.
Ah qui était sorti deux épisodes auparavant, trois épisodes auparavant, je sais plus.
Je crois que c'est l'épisode auparavant.
Voilà, donc effectivement, Spookies.
Eh bah, ben, écoute, c'est... c'était... Alors, c'est un film d'horreur indé.
Voilà, un des. Alors, ce qu'il faut savoir,
il y a trois réalisateurs.
C'est ça, il y a trois réalisateurs parce que, en fait,
ça se voit. Hein.
Ça se voit un petit peu parce que globalement, le film a été commencé par quelqu'un qui, je crois, s'est fait virer, qui était remplacé par quelqu'un, qui s'est barré et qui a été terminé par une troisième personne. Voilà.
Ouais. Et surtout, c'est des choses qui n'ont rien à voir entre elles, oui. En fait. Il y a oui, au début, il y a un gamin, il s'enfuit dans les bois et en fait, il rencontre.
Il rencontre un mec chelou.
Un mec qui se fait slasher.
C'est
ça. Et du coup, il va rentrer dans une vieille maison. Et à ce même moment, pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui sont en train de faire « Yo, yo, yo !»
Alors, je sais pas toi, mais justement, moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai été très décontenancé devant les jeunes parce qu'en fait, ils sont dans deux voitures différentes et ils sont quatre dans chaque voiture. Et en fait... Au début, j'ai pas compris que c'était des jeunes parce que la moitié du casting, ils ont l'air d'avoir 45 ans quand
ils
même.
Ils sont pas très jeunes.
Ils sont pas très jeunes en fait.
Genre ils sont en train de faire ouais, genre un peu genre on va faire la teuf, tu sais, comme le sprint break quoi.
Ouais.
Mais ils font sprint break, ils ont notre gueule quoi.
Ouais, c'est ça, ils ont notre gueule et ils sont en costard et j'étais là, je comprenais pas la relation entre les personnages en fait.
Je sais que j'ai l'air jeune, mais je peux pas faire sprint break, c'est fini
c'est
hein,
ça,
maintenant.
C'est fini, c'est ça.
Et du coup, ils se retrouvent dans une maison et ils vont se faire poursuivre par une espèce de alors d'abord il y a les hordes de zombies, mais c'est un peu, il y a de tout hein, il y a des hordes de zombies, il y a des araignées.
En fait, il y a une
femme araignée.
Et tout ça, c'est plus ou moins manipulé par une sorte de conte Dracula qui vit à la cave. Et c'est là où on voit justement que le film a été fait. Parce que globalement, il y a une équipe qui a tourné cette histoire du conte Dracula, l'autre qui a tourné l'histoire avec les jeunes, et le dernier qui a rassemblé le tout, en fait.
Ouais, voilà. Et en gros, et le gros qui c'est une espèce de. Je sais pas, j'allais dire Christopher Lee, mais c'est pas Christopher Lee, mais l'idée, c'est que c'est un grand Manitou des monstres qui les contrôle tous.
Ouais, qui les contrôle et qui les invoque, ouais. Tout à fait.
Et je crois que. Alors, ça devient un tout petit peu sexy à un moment, parce que forcément, il y a des jeunes, entre guillemets. Et je crois qu'aussi, si je me souviens bien de tous les détails, mais il y a des choses qui m'échappent hein, déjà encore, je peux te dire. Je crois que le boss de fin de niveau là, le Dracula, je l'appelle Dracula, ouais. Mais c'est pas Dracula, c'est un.
Non, c'est pas Dracula, mais effectivement c'est un.
C'est un warlock, voilà. Il essaye de marier il veut se trouver une promise parce que ça fait des années qu'il est là.
Parce qu'en fait, il a conservé son ancienne meuf. Dans un cercueil et il essaye de ce que j'ai compris, il essaye de drainer l'énergie vitale des jeunes pour faire revivre sa meuf. Et c'est là qu'intervient peut-être le truc le plus intéressant. Alors outre le fait que la nana finit à moitié à poil dès qu'elle sort du
voilà,
cercueil, parce
c'est
que,
ça
voilà.
que je disais, c'est vraiment cheapo ça. C'est vraiment très très cheap.
Le truc intéressant en termes de scénario je mets des guillemets ce mot-là, c'est que la fiancée en question, en fait, globalement, la première chose qu'elle dit en sortant du cercueil, c'est mais en fait non, j'ai pas envie de vivre avec toi. et j'aime bien cette espèce de petit mini twist, voilà, où globalement l'espèce de figure un peu romantique du warlock isolé, elle est démolie aussitôt où la meuf lui dit mais non, en fait vivre avec toi c'était horrible, c'est pour ça que je suis morte en fait. Et voilà.
Alors,
après ça va pas plus loin que ça, mais j'ai trouvé ça intéressant.
Il y a plus d'auteurs encore que de réalisateurs hein, je peux vous
le
dire.
Ah bah ça j'imagine, ouais.
Et c'est vraiment tourné avec 2 francs 6 sous, c'est vraiment de la grosse débrouille pas bien faite. C'est pas très bien joué, mais c'est pas bien joué, genre, ça m'a fait penser, tu sais, en termes d'acting, ça m'a fait penser au jeu sur Mega CD qui s'appelle Night Trap.
Oui, je vois exactement.
Tu vois, c'est genre, on fait genre, il y a un truc super intense qui est en train de se passer, alors qu'en fait, c'est juste 3 personnes avec une cagoule, quoi.
Globalement, la scène d'intro du premier Resident Evil sorti sur PlayStation 1, ça jouait mieux dedans, en fait. Voilà.
Ah, tu veux dire celle qui était au Japon là.
Joseph
Barry Burden. Barry voilà. Burden.
Mais
il y a une vidéo,
ils
les ont retrouvés, ils se parlent entre eux et tout, c'est super.
Oui, c'est ça, c'est drôle.
Barry Burton 30 ans après quoi.
un truc que je sauverais éventuellement de Spooky, c'est qu'à minima, tu peux pas dire qu'ils sont pas généreux sur le bestiaire parce que effectivement, tu l'as dit, ils prennent toutes les créatures qui existent ou qui existent pas d'ailleurs.
Je pense que tu sais, ils avaient un prix. Il devait avoir un prix de gros. À...
Parce qu'il y a des momies, il y a costumes. La mort.
Ah, il y a les momies, il y a les araignées, beaucoup d'araignées.
Il y a des espèces de chauves-souris à tête humaine. Il y a la femme araignée.
Il y a les zombies, il y a les zombies aussi.
Il y a les zombies. La femme araignée que je trouve assez cool en fait.
Ah, et il y a aussi les reptiles, là, les lézards.
Oui, les espèces de trucs, je sais pas trop ce que c'est Donc, il y a une espèce de bestiaire, et puis à un moment donné, c'est pareil, il y a une espèce de créature, je sais pas ce que c'est.
Il y a les squelettes,
tu sais, la créature qui ouvre son thorax et qui attire la meuf dedans. Enfin voilà, il y a des.
Je connais pas exactement ça. Et alors, ouais. Si vous cherchez l'IMDB des comédiens, c'est un peu compliqué. C'est souvent leur seule participation au monde du cinéma.
C'est souvent leur seul film, ouais.
Et si vous cherchez, c'est plutôt... Pour les actrices, c'est en général, elles viennent plutôt de la scène indépendante adulte, on va dire.
C'est ça.
Voilà, c'est vraiment super cheapos, mais c'est devenu culte.
Oui, bah c'est devenu culte parce qu'encore une fois,
parce qu'il faut tout réhabiliter. Donc vas-y, réhabilitons ça.
Réhabilitons ça. Non, mais voilà, parce qu'en fait, le truc c'est que le film est un espèce d'amalgame de n'importe quoi, ce qui fait que globalement, tu quand une scène démarre, déjà t'es dans l'incapacité totale de savoir comment est-ce qu'elle va finir, et surtout t'es dans l'incapacité totale de prédire quelle sera la scène suivante. Tu vois, c'est un film où tu veux être surpris, c'est bien celui-là, parce que je pense que même au montage, quand le type a essayé de rassembler les films, je crois qu'il savait pas lui-même ce que ça allait donner, quoi. Voilà. Mais il y a un côté, enfin. C'est vraiment pas bon. Moi, il y a un côté sympathique, je trouve, dans la dernière demi-heure, en fait. C'est dans la dernière demi-heure où ils balancent tous les trucs qu'ils peuvent. T'as tous les monstres qui s'enchaînent, t'as tous les trucs, le côté hyper cheapos, le côté caoutchouc, machin. Avec quelques trucs que je trouve sympas, genre la femme araignée, je trouve qu'elle est, plutôt réussi à hauteur de son budget, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas, voilà, je pense que dans la tête du scénariste ou du réalisateur, ça rendait mieux que là, mais je trouve que le résultat est rigolo à voir. Mais voilà, il y a un côté, je pense que la soirée entre potes, tu passes à un moment où tu te marres, à minima, quoi.
Voilà. C'est un truc, c'est devenu un événement de, on le passe dans les festivals et tout ça. C'est devenu un peu un vœu room du film d'horreur, quoi.
C'est ça, exactement. Mais tu vois, par exemple, un mauvais film qu'on a abordé la semaine dernière, genre Surf Nazi Must Die, je trouve que Spookies est moins chiant, en fait.
Alors, je t'arrête. Spookies est quand même chiant.
Oui, il est chiant, mais je trouve qu'il y a un moment donné, parce que Surf Nazi Must Die, t'as des ventres mous tout le temps. Spookies, quand tu passes la première heure, la deuxième heure, au moins, t'as un peu cette espèce de cascade d'hallucination, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur est arrivé. Voilà, moi, je pense pas que c'est un bon film, et je pense qu'il ira pas haut du tout. Tu vois, je vois des trucs, genre Krull, etc. Voilà, on est dans ce domaine-là. Mais voilà, j'aime bien façon de parler. Je trouve la fin, il y a un truc rigolo qui se passe dans cette espèce d'amoncellement de latex, de faux sang et de nichon, quoi. Parce que c'est globalement c'est ce qui se passe, quoi.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser comme film, parce que moi j'ai pas autant de références en film d'horreur que toi et tout ça, mais ça m'a fait penser à Cabin in the Woods, en fait, qui avait aussi ce truc de gros bestiaire.
Oui, sauf que le propos est très différent de bestiaire.
Non, mais ouais. De bestiaire, ah bah non, mais oui, c'est pas comparable. Ouais. Mais de bestiaire composite.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui.
Bon, on va le classer peut-être.
Oui,
Spookies.
C'est ça.
C'est pas ouf. Hein.
Non, c'est pas.
C'est pas ouf. Je pense que ça a pas. C'est trop lent. Enfin, il y a un truc de rythme qui est un peu foireux. Et si, sinon, ça se voit que ça a été réalisé par plusieurs personnes qui sont pas passé le mot. Hein. C'est vraiment un cadre risqué, quoi.
Ouais, c'est un cadre risqué. Parce que même, tu vois, certains comédiens ne se croient jamais du film. La photo d'une séquence à l'autre, enfin, tu vois que c'est pas du tout la même personne qui a fait le truc. Enfin, c'est non, bien sûr, mais c'est voilà. Alors après, la question, c'est où est-ce qu'on va le mettre.
C'est moins bien que la petite maison de la petite boutique des horreurs.
Ah bah oui, bien sûr. Elle est où, la petite boutique des horreurs?
Elle est... On en a parlé dans l'épisode 0, 242.
Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Putain, la vache. Incroyable.
C'est moins bien que Legends, je dirais.
Oui, quand même.
Mais c'est mieux que Surf Nazi Must Die.
C'est mieux que Surf Nazi. Tu vois, par rapport à Devil Story. C'est moins bien que Ne réveille pas un flic qui dort, quand même.
Ok, d'accord. Mais au-dessus de la fièvre au corps. Allez,
au-dessus de la fièvre au corps, allez.
À chaque fois que je vois la fièvre au corps, je pense à autre chose, tu sais.
Oui, c'est ça, ouais. On est loin de.
Tu le sais, à chaque fois, c'est terrifiant. Donc, c'est Spookies.
Spookies, 274e, du coup.
274e. Hop, un nouveau film, on s'approche des 300, mine de rien.
Eh oui. Il n'est pas un bon film non plus, rappelons-le.
Et alors, maintenant, on va prendre une liste.
Eh ben oui.
On va prendre une liste qui est, ma foi, intéressante et très variée. C'est une liste de films français sortis dans les années 80. C'est une liste qui nous est envoyée par Baptiste. On l'embrasse, Baptiste, c'est un auditeur de longue date.
Merci, Baptiste, auditeur de longue date.
J'espère qu'il nous écoute encore. Sa liste date de 2017, quand même.
Ah, mais oui, mais c'est sûr, il est toujours là.
Et sa liste s'intitule « Ils ont battu le retour du Jedi au box-office français ».
Ah, intéressant. Intéressant.
Donc, tu peux pas imaginer ce qui a battu. Alors, il y en a un qu'on a déjà vu. Je viens de vérifier. Je vérifie au fur et à mesure cette liste. Je vérifie s'il n'y en a pas un deuxième. Ça serait con. Hop. Ah putain, il y en a deux qu'on a.
Le bâtard, tu veux dire, depuis 2017, il n'a pas réussi à anticiper.
Non, mais non, bah oui, bah, je suis désolé. Hein. Il y en a deux qu'on a déjà vu. Et attends, il y en a une. Attends, il ne reste plus qu'un film, mais attends, c'est pas possible. Sinon, je refais tout le segment. Ah bah écoute, il y en a un qu'on n'a pas vu là-dedans.
Alors, c'était quoi les deux qu'on a vus?
Alors, les deux qu'on a vus, c'est. Les dieux sont tombés sur la tête.
Ah oui, d'accord, ok.
Qui a été un énorme carton. C'est plus de 5 millions d'entrées quand même hein, en France. Hein, je sais pas si...
C'est pas mal.
Il est 256e. On peut le dire, c'est pas ouf.
Oui. C'est, voilà,
c'est pas ouf et je pense pas que ça survive bien le temps. Surtout après les histoires qu'il y a eu, les histoires du paiement de l'acteur. Parce que l'acteur principal, je crois qu'il a été payé 50 balles. Et au bout d'un moment, ils ont consenti à lui donner... genre 10 000 balles ou 20 000 balles, ouais. Mais c'est vraiment du bout des lèvres, c'est vraiment dégueulasse. Le deuxième film, c'est L'été meurtrier.
Ah oui, Pimpon.
Alors oui, Pimpon. C'est parce que c'est un personnage du film. Hein, qui dit ça.
Exactement.
Et L'été meurtrier, il est 158e. C'est bien classé, juste au-dessus de Sous Nostalgia et au-dessus de Best of the Best. Et le troisième film, c'est Les Compères.
Alors, Les Compères, c'est Gérard Depardieu.
Ouais.
Et notre ami, Pierre Richard.
Pierre Richard. Du coup,
c'est la suite de...
C'est la suite de La Chèvre.
La Chèvre, c'est ça, voilà.
Et c'est avant Les Fugitifs.
Oui, tout à fait.
Puisque c'est techniquement... Est-ce que c'est une trilogie hein. Je pense que c'est canoniquement une trilogie.
Je pense que c'est une trilogie canonique, effectivement.
Enfin, en plus, ils ont les mêmes noms, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop chelou, quoi. Donc, Pierre Richard, qui joue le rôle de François Pignon.
Voilà, exactement. François Pignon, le personnage récurrent du cinéma de Francis Weber, même si c'est pas toujours le même personnage, mais en tout cas, il incarne toujours plus ou moins la même idée. Voilà,
c'est une idée, c'est-à-dire... C'est un mec un peu lunaire. Lui, il le qualifierait de lunaire, un peu demeuré quand même.
Voilà, c'est un mec un peu demeuré, un peu naïf, mais qui au fond reste quand même un bon gars, quoi.
Qui reste un bon gars et face à lui, bien sûr, son poteau, c'est Gérard Depardieu.
Voilà, Gérard Depardieu qui est le castagneur, castagneur rentre dedans, voilà, qui forme ce duo a priori improbable sur papier, mais évidemment c'est le principe même du buddy movie, quoi.
Évidemment, on a du mal à aller un peu les distinguer pour être sûr que ça soit Les Compères. Enfin, pour les non experts, c'est le film du coup de boule.
Oui, c'est ça. C'est ça.
C'est
exactement.
Le film du coup de boule. Et je pense que c'est une des grandes scènes du cinéma français.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu as des bons souvenirs, Stéphane?
Alors moyen, voilà. Donc le celui-là, c'est le film où globalement en fait les deux personnages se retrouvent à devoir enquêter sur la disparition d'un gamin de 17 ans parce que là ils ont eu une liaison tous les deux avec leur mère 17 ans auparavant et en fait le truc c'est qu'elle leur fait croire que ils sont tous les deux le père. Enfin à chacun.
C'est Annie voilà. Dupéret, non
C'est Annie Dupéret, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et du coup, ils se lancent dans l'aventure en pensant sauver chacun leur fils, sauf qu'évidemment, c'est pas leur fils. Ou alors, peut-être, on ne sait pas. Bref, avec leur approche différente, etc. Et c'est vrai que moi, voilà, c'est un film qui. J'ai pas un souvenir impérissable des compères. Parce que, c'est. Voilà, enfin, on est sur la même formule que. Que la chèvre, sauf que du coup on connaît déjà le truc, il y a le côté un peu moins frais aussi, et malgré les coups de boule, voilà, je trouve que c'est un film qui est un peu plus poussif que son modèle, quoi.
Ouais, mais je repense à la scène des coups de boule et c'est trop drôle. T'es connu. Franchement, je pense que c'est moins bien que les chèvres. La chèvre.
Oui, c'est moins bien que la chèvre. Voilà, c'est moins bien que la chèvre. C'est moins bien. C'est à la fois pareil et pas tout à fait pareil. Enfin voilà, c'est bon. C'est un film. Je saurais même pas te dire plus que ça parce que à moins de refaire tous les gags de A jusqu'à Z. Voilà, quand ils croisent les punks, etc. Bon.
C'est le coup de boule, quoi.
Voilà, c'est le fameux coup de boule qui reste la meilleure scène du film.
Mmh. D'assez loin. Mais surtout parce qu'il n'y a pas le truc, là, quand il joue le gentil, là. Je crois que c'est dans la chèvre.
Alors oui, il joue le gentil.
Tu sais, la fameuse scène où il est... tu vois, j'ai su rester calme et tout.
Ah oui, oui.
Ça, c'est la chèvre, on est d'accord.
Oui, je crois que c'est la chèvre, ouais. Effectivement.
Qui est aussi une grande scène, putain.
Qui est aussi une grande scène, voilà. C'est un film, il m'a pas laissé une très très grande impression sortie de cette scène clé. Donc voilà, pareil, l'histoire avec le gamin qui est leur fils, pas leur fils, etc. Je sais plus qui joue le gamin, mais je crois pas qu'il ait fait une très très grande carrière derrière. C'est un poil, il a un poil énervant aussi. C'est pas un très grand film qui m'est resté en tête.
Alors écoute, je viens de revérifier pour le gamin. Il est connu parce que il a joué dans la série Plus belle que la vie quand il est devenu adulte.
D'accord, ok. Écoute.
Le petit gamin maintenant il a 60 ans si tu veux.
Oui, c'est ça, putain, c'est clair.
Il a 61 ans pour être précis. c'est quand même putain de carrière, quoi.
Le truc qui a sauvé, qui peut-être restera au-delà de la scène du coup de boule, c'est la musique de Vladimir Kosma. Voilà l'espèce de mélodie sifflée qui reste assez sympa, mais bon, je suis assez client de Vladimir Kosma d'une manière générale, donc je suis peut-être pas objectif.
Et surtout, je crois qu'il y a Michel Aumont dans celui-là.
Il y a Michel Aumont dans celui-là.
Ouais.
Ah mais oui, exact, c'est dans celui-là où oui. Alors
Et Michel Aumont, et oui, non, il joue un rôle important en plus.
Oui, il joue, oui, tout à fait.
Écoute. Oui. Moi j'ai de la sympathie pour ce film, mais
oui, mais
c'est je veux dire, et pour Francis Weber et pour tous les gens présents, c'est un milieu de tableau. En sachant que Pierre Richard, il a fait pas que 3 pignons, il en a fait beaucoup plus, hein.
Oui, et puis
il en a fait 6 ou 7, hein.
Et au-delà même du label pignon officiel Francis Weber, c'était des années où Pierre Richard faisait un peu tout le temps le même film et le même rôle, quoi.
Putain, faudrait faire. Vas-y, tu sais quoi, battle top des pires, top des meilleurs pignons.
Non mais tu sais ce qu'il faudrait faire, c'est tu prends une scène d'un film de Pierre Richard sorti entre 1975 et 1989, et tu dois deviner de quel film c'est tiré, et je suis sûr que c'est super dur en fait.
Bah c'est plutôt dur, en plus il a vraiment une patte visuelle, enfin il a vraiment un truc, mais c'est pas dans la manière de réaliser, je dirais que c'est plutôt dans le montage. En fait, comme tous ces films sont montés par ses soins, et tu sais, il y a une espèce de science du rythme chez Weber. Du coup, c'est ça, c'est plus le montage qui me fait douter en me disant, ah, ça c'est truc mûche, ça c'est... Bon, après, j'ai aucun doute quand c'est le, quand tu vois le placard ou la doublure.
Oui, quand t'as certains trucs très, 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 très ou
dîner de con, tu vois, dîner de con, c'est peut-être le plus identifiable, quoi.
Oui, mais oui, mais là c'est Pignon, c'est pas Pierre Richard, attention.
Oui, non, non, bien sûr, non, non, bien sûr. Oui, c'est Pignon, je parle de Pignon.
Ouais, tout à fait.
Bah écoute, on va le classer.
Et écoute, on va classer les compères. Il avait fait combien d'entrées ? T'as le chiffre ou pas, du coup, juste pour un...
Combien il a fait d'entrées ? Tiens, ce serait intéressant de vérifier. C'est dur de savoir dans cette époque. Non, j'ai pas le box-office, mais techniquement, il a dû faire plus de 5 millions pour qu'il soit... Parce que je crois que, je crois que le Retour du Jedi a fait 4 millions ou quelque chose comme ça.
D'accord, peut-être, ouais.
Nah, donc, oui, oui, non, il est dans les très hauts, quoi.
Eh ben, écoute. Mm.
Alors, vas-y, écoute, on va le classer.
Ah bah tiens, je vois la chèvre, là, qui est 101.
Ah, c'est moins bien, déjà c'est moins bien que la chèvre.
Ça nous fait déjà une barrière, voilà, on sait à peu près.
Je trouve ça moins... Alors, je préférerais le revoir à la soupe aux choux, mais en même temps, je pense pas que ça soit aussi fort que la soupe aux choux.
C'est où la soupe aux choux ?
Est-ce 148e.
Ah, je pense que la soupe aux choux reste... Alors c'est pareil, la soupe aux choux, film, voilà, très compliqué entre guillemets à...
Ouais, mais en même temps, tellement puissant.
Mais, non, mais, alors, puis c'est un film qui a un fumé, hein, n'est-ce pas ? Et puis là aussi, une grande bande originale, hein, quand même, la soupe aux choux.
Ah non, moi je pense qu'on n'aura jamais fait mieux que la...
La soupe aux choux, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même... Je suis toujours surpris que le film n'ait pas eu le César de la meilleure bande originale, ainsi que des meilleurs effets spéciaux.
Tu sais quoi ? Il faut savoir un truc, c'est que c'est souvent les récompenses qu'on loupe qui nous définissent.
C'est ça, exactement.
En sachant que la musique, c'est Raymond Lefebvre. Hein,
C'est Raymond Lefebvre, ouais. Effectivement. Voilà.
Tout le monde Lefebvre. Pense que c'est Cosma, pas du tout. Hein, c'est pas Cosma.
Non, 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 c'est pas lui. Et voilà, d'ailleurs, la BO de la soupe aux choux qui a été rééditée dans un vinyle vert fluo, du plus bel effet.
Ah ouais ?
Ouais, ouais.
Ah, moi, le moment préféré de la BO, c'est quand même quand ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta, c'est genre l'espèce ta-ta finale, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, je trouve ça trop puissant. Genre vraiment, ça me fait penser au cœur de l'armée rouge, mais basé sur un film avec des paix, quoi.
C'est ça, exactement. Mais bon, je trouve que la soupe au chou est quand même plus intéressant, et puis, encore une fois, quand tu le revois avec tes yeux d'adulte, le destin du personnage de Funès, il y a vraiment un truc qui est assez... Voilà, assez particulier.
Ah bah, c'est... Il y a deux films en un, hein, j'ai envie de dire.
Ouais, clairement, clairement, clairement. Et là, les compères n'arrivent pas, voilà, donc c'est moins bien. C'est moins bien que Invasion USA. Je suis désolé, mais voilà, c'est un monde où il faut dire les choses. Mmh. C'est moins bien qu'Highlander. C'est moins bien.
Ah putain,
c'est moins bien que Papy fait de la Résistance.
Ont fait 3 millions de spectateurs.
Ah ouais, bah tu vois, seulement j'ai envie de dire. C'est moins bien que Papy fait de la Résistance. Et tu sais quoi, Daniel ? Je viens de m'apercevoir que Devil's Story, on l'avait déjà classé dans l'épisode 77.
Non.
Si.
On a deux Devil's Story ?
On a deux Devil's Story.
Oh merde.
Ah merde. On a deux Devil's Story.
C'est quoi ? On fait genre, personne nous a entendu. Hey, Stéphane, personne nous a entendu.
Ils ont genre 65 places d'écart.
On garde lequel ? Bah, on garde les deux. Hein.
On garde les deux, c'est comme ça. Mais honnêtement, je pense que le nouveau classement est plus conforme que l'ancien.
Oui, non, mais parfois, il y a des films qui évitent les balles.
Ah, putain, mais...
Putain, David Story, il est au-dessus de Batman. Ah, il est au-dessus de Rien que pour vos yeux. Il est au-dessus de L'histoire sans fin. Non, non, c'est pas possible. De Transformers.
Mais de Ghostbusters, on l'a complètement oublié, en fait, je crois.
Il a échappé.
C'est génial.
Il a échappé.
Il est au-dessus de Piège mortel à Hawaï. Comment c'est possible ?
Ah ouais, non, alors que c'est moins bien, hein, c'est sûr et certain.
Non, c'est sûr. Mais là,
je préfère son deuxième classement, hein, je te le dis tout de suite.
Ah oui, oui, moi aussi, le deuxième classement, c'est le vrai classement, c'est le classement légitime. Mais là, tu vois, pour les compères, je vois Nimitz 230, c'est moins bien. Enfin, les compères, c'est moins bien que Nimitz, quoi.
Je préfère Nimitz. Je préfère Nimitz.
Bah oui, moi aussi, je préfère Nimitz. Ouais, déjà c'est pour une fois qu'on gagne au Pearl Harbor, alors s'il te plaît.
Mais si tu veux, je mettrais ça quand même au-dessus d'Howard Vodok, peut-être.
Ok. Ok. Alors, et juste en dessous de Running Man, du coup.
D'accord.
En dessous de Running Man à,
au-dessus
à
de Roar.
Voilà, au-dessus de Roar à la 236e place.
Bon, personne nous a entendu, ils savent pas qu'il y a deux.
Non, chut, ils sont pas là.
Oh la vache. Oh la vache. Et tu sais quoi, personne nous l'a dit en fait, je crois que je vais regarder sur Discord, mais personne.
Parce que je crois que tout le monde s'en fout en fait. C'est il y a vraiment un truc.
Mais je pense que la deuxième fois où on a parlé devait être vraiment mieux.
Oui, je pense elle était c'était la fois à retenir, c'est
la deuxième, elle est canon. La deuxième est toujours meilleure, n'est-ce pas?
Mais tu sais c'est comme Evangelion et Evangelion Rebirth, en fait. Mm-hmm. C'est des univers qui cohabitent, tu vois. Mm-hmm. Voilà.
Oui, bien sûr. C'est un multiverse.
C'est un multiverse, c'est ça.
Bah écoute, on va remercier Baptiste pour sa liste, qui a été quelque peu malmenée, bizarrement.
Merci Baptiste pour ta liste, effectivement.
Et on se prend encore une liste?
Ah bah bien sûr, oui, quand même, oui.
Tu sais quoi, Stéphane? Tu m'as parlé de Nimitz, alors ça m'a donné envie de reparler de Nimitz. Non, je déconne. Tu sais quoi? Ça faisait longtemps, je prends une liste de Manu Diesel.
Ah!
Ça fait quand même très longtemps même, j'ai envie de dire.
C'est ça fait trop longtemps.
Mais tu sais quoi? Quand ça va mal, il faut prendre une liste de Manu Diesel, ça marche tout de suite. Et sa liste s'intitule « Il n'y a pas que McFly qui revient dans le temps ».
D'accord, ok. Donc je pense qu'on va parler de voyage dans le temps, du coup. Si...
le dernier film de sa liste, c'est Nimitz, Retour vers l'enfer. Ça, on l'a classé depuis un bail.
C'est ça.
Il est combienième?
Nimitz, j'étais tombé dessus juste avant, quand je parcourais le marbre. Donc Nimitz, Retour vers l'enfer. Oula. Il est où? Incroyable.
Il est 230e. Et la prochaine fois, je demanderai à moi-même parce que on en parlait dans l'épisode 5. Ouais, pour dire,
voilà. Il y a un certain temps.
C'est un film que j'aime bien.
Oui, j'aime bien aussi Nimitz.
Ouais, non, mais conceptuellement, c'est un film plus fort conceptuellement que le résultat.
Voilà, exactement. Je
le
suis d'accord.
Deuxième film de cette liste, c'est C'était demain. Time After Time.
Alors.
C'est un film de Nicolas Meyer.
Alors, j'ai bien peur de ne pas l'avoir vu parce que le titre français, comme le titre
original, bah écoute, je le mets dans les devoirs de vacances. Du tout. C'est machine à remonter dans le temps, sauf que c'est Jack l'Éventreur qui l'utilise pour débarquer dans les années 70 à San Francisco. Tu l'as vu?
Oui, non, je l'ai pas vu, mais je vois exactement. Enfin, je vois ce que c'est parce que j'ai vu la bande-annonce et puis j'ai vu le pitch en fait. Et il est poursuivi par G. Wells en personne, en fait,
ouais,
c'est ça
ouais.
le truc. Voilà. Non, et j'ai jamais pris le temps de le voir.
Je te le mets. Alors, techniquement, il est sorti en 79, mais il est sorti en 80 dans le machin.
En France, ouais. Voilà. Donc ça compte.
Okay. Ça compte.
Donc ça compte.
Et le dernier film de cette liste, je suis sûr que tu l'as vu, c'est un film de Francis Ford Coppola qui s'appelle Peggy Sue s'est mariée.
Peggy Sue s'est
mariée. On l'a pas classé, hein, rassure-moi qu'on l'a pas classé.
Mais attends, je suis pas sûr qu'on l'ait pas classé, t'es sûr?
Ah,
attends.
Non, on n'a pas de Peggy Sue. C'est bon. Ouf.
Sûr, hein, parce que...
Pas de conneries aujourd'hui, pas de conneries.
Parce que voilà, il faut pas non plus qu'on va pas tous les faire deux fois, tu vois.
Non, oui.
À un moment donné.
Soit on fait une résiste parallèle et voilà.
Oui, c'est ça, voilà. On fait un marbre parallèle comme on a fait dans les épisodes 200, ouais. En fait.
Et alors, Peggy Sue s'est mariée, donc Francis Ford Coppola, tu l'as vu?
Oui, bah oui, de Francis Ford Coppola. Pas le Coppola que j'ai le plus vu, hein, je vais être honnête.
Je pense qu'il y en a d'autres qui viennent plus en tête quand on parle de Coppola.
Voilà,
je sais pas pourquoi. Mais voilà, oui, non, il y en a d'autres qui viennent plus en tête. Mais celui-là n'est pas inintéressant.
Non, il n'est pas inintéressant. Donc effectivement, Peggy Sue s'est mariée, donc qui comment s'appelle donc parle de Peggy Sue, hein, vu que c'est dans le titre, qui est joué par Kathleen Turner, si je ne m'abuse.
Exactement.
Voilà, qui en fait se rend à une réunion d'anciens élèves, donc de son lycée, comme ça se fait dans les chansons de Patrick Bruel notamment. Voilà, et elle y va. Alors, je crois qu'elle vient juste de larguer son mec qui est joué par Nicolas Cage, qui en fait c'est son mari, mais c'est aussi son amour de lycée. Voilà, qu'elle a rencontré au lycée
et avec qui ils sont restés.
Voilà. Et du coup, elle appréhende un petit peu de se rendre à la réunion parce qu'elle sait forcément que d'un seul coup, mais quoi, t'es plus avec lui. Je me rappelle plus le nom du personnage, voilà. Mais voilà, elle a peur d'y aller parce qu'en gros, ils vont dire tous les autres vont faire les gros lourds. Mais du coup, elle est convaincue par sa meilleure amie. Ou sa fille, je sais plus. Parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a Kathleen Turner. Et il y a Helen Hunt. Helen Hunt, dans mon souvenir, c'est sa fille, c'est ça ?
Attends, il y a Helen Hunt. Je sais plus. Helen. Oui, mais on la voit pas beaucoup. Oui. Ouais, du coup.
Non, elle voit pas beaucoup, oui. Mais voilà, c'est ouais. Non, mais j'essaie de remettre. Mm. Mais effectivement, elle finit par s'y rendre quand même parce que elle se dit bon, ça peut être sympa aussi de revoir les collègues. Enfin, les collègues. C'est pas des collègues, c'est des anciens camarades de classe. Voilà. Et voir un peu comment tout le monde a changé, qu'est-ce que vous êtes devenus, tout ça. Et évidemment, se passe ce que ne voulait pas que ce qui se passe, c'est que Nicolas Cage débarque à la réunion, alors que finalement, c'était plus ou moins entendu qu'il ne viendrait pas. Évidemment, gros malaise, tout ça. Voilà.
Mais attends, elle gagne le prix de la réunion, genre
c'est ça.
Elle est la reine du bal.
C'est ça, elle est la reine de ce bal-là, en fait, voilà, de cette réunion.
Et au moment où on lui dit « tu es la reine du bal », elle tombe dans les vapes.
Voilà, elle monte sur scène et elle s'évanouit. Et quand elle se réveille, dans les années 60.
Donc oui, quand elle était aux dernières années de lycée, enfin du high school. Quoi.
C'est ça, exactement.
Et elle se réveille et du coup, elle fait comme si de rien n'était au début, mais elle se rend bien compte qu'il y a un truc qui est chelou.
Voilà, qui marche pas, quoi.
Et du coup, elle va refaire un peu le parcours... Le parcours qu'elle a vécu, mais au fur et à mesure, elle va changer de choses au fur et à mesure. Quoi. C'est un archétype de film qui a déjà été fait 10 milliards de fois maintenant.
Ah bah oui, bien sûr.
Truc avec... comment il s'appelle ? Inversé, là.
Tenet ?
Non, mais c'est Matthew Perry qui devient Zac Efron. Il se réveille et c'est Zac Efron, quoi. Il faut croire que Matthew Perry, que Zac Efron jeune...
Alors, je l'ai pas vu parce que je pense qu'un film avec Zac Efron et Matthew Perry au casting, ça devait pas me parler, tu vois.
C'est pas nul, hein. C'est pas nul du tout. Hein.
D'accord.
Mais okay. Bon, après, moi, tout c'est...
C'est tellement pas nul que tu te souviens plus du titre, en fait, c'est ça ?
Ouais, c'est 20 ans à nouveau. C'est un truc comme ça.
D'accord, ok.
C'est 20 again.
Ah, donc,
ouais.
Donc en fait, le film essaie de te faire croire que Zac Efron, c'était Matthew Perry quand il était jeune.
Exactement.
Ah oui, d'accord, donc grosse suspension d'incrédulité quand même.
Oui, non. Et surtout quand tu connais ce qui est devenu Zac Efron plus tard et ce qui est devenu Matthew Perry après, quoi. Enfin. Mais ce qui est intéressant, c'est un archétype, mais même ce truc a été refait par, comment il s'appelle, Camille Redouble, là, comment il s'appelle déjà, la fille qui fait tout le temps des caméos dans tous les cinémas français. J'ai un trou de mémoire.
Ah, je sais pas du tout qui tu parles. Catherine Deneuve ?
Non. Merde, j'ai un trou de mémoire. Camille, c'est Noémie Lvovsky. Noémie Lvovsky, elle joue jamais dans des films. Elle est toujours avec la participation amicale. Je me demande comment elle gagne sa vie. Elle est tout le temps en participation amicale. Je me demande si elle est payée. Comment elle est payée, tu vois ? C'est une vraie question que je me pose. Mais Camille Redouble, c'est la même chose. Hein. C'est Noémie Lvovsky qui redevient jeune. Okay. Et bien sûr, à ce moment-là, quand on lui a demandé à Noémie Lvovsky, est-ce que vous avez vu le film de Coppola ? Elle a fait non, je sais pas de quoi vous parlez. Et genre, t'as pris la même histoire à la virgule près de Francis Ford Coppola, quoi. Sauf que, enfin, si elle a peut-être dit, mais je m'en suis pas inspiré. Mais tu vois, genre, bon, après. C'est un truc classique du cinéma d'une variante du cinéma d'adolescence, c'est-à-dire c'est te mettre à la porte de tes regrets. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'aurais fait différemment si on te remettait dans au même moment, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, effectivement, elle va revivre toute sa vie et finalement les échecs dans lesquels elle s'est retrouvée dans les années 80. Donc là, typiquement, l'échec de son mariage avec Nicolas Cage, tout va être remis en perspective et effectivement, elle va être amenée à revoir les choses sous une façon différente et à peut-être prendre des décisions qui n'étaient pas celles qu'elle avait prises à l'époque, quoi.
Et voilà, c'est des comédies coming to age, en fait, mais c'est une variante. Parce que le vrai coming to age, c'est elle a 17 ans et c'est très dur la vie. Tout le monde s'oppose à elle. C'est ça, c'est le très classique coming to age. Là, c'est la variante de j'avais 40 ans ou 50 ans et là, tout d'un coup, je me remets à avoir 17 ans au moment où, de la phase la plus critique. Et en général, c'est toujours lié au moment du bal, enfin au moment de...
Oui,
enfin,
parce que voilà.
Qui est un peu le pic narratif de toutes ces histoires, quoi.
De toutes ces histoires, voilà, c'est effectivement c'est très symbolique parce que c'est un rite de passage qui est très ancré dans la culture américaine, voilà, et c'est pour ça que c'est une figure incontournable du film d'adolescent, du manière générale, que ce soit Peggy Sue ou dans Carrie, quoi, par exemple.
Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que dans celui-là, elle se dit, elle veut pas vivre avec des regrets. D'abord, c'est un truc que je dirais qu'on serait dans la vie. C'est pas bien de vivre avec des regrets. Et elle se dit, ah bah lui, j'ai jamais couché avec. Bah du coup, elle recouche avec. Et ça aura une incidence sur plus tard et sur la narration, sur le résultat de... Parce qu'évidemment, le final de ce genre d'histoire ne peut être que le même. Il retourne dans son propre corps à bout d'un moment, tu vois. Mais elle aura peut-être affecté un peu sa vie actuelle, ce qui est un peu le propos d'ailleurs de Back to the Future, quoi.
Oui, c'est un peu ça. Sauf que voilà, là, effectivement, l'histoire, c'est que finalement, elle essaye finalement, enfin, elle se rend compte finalement que sa vie un peu ratée des années 80, tout n'était pas raté quand elle le remet dans perspective des années 60. Voilà. Et tout le truc du film, c'est le moment de divulgacher.
C'est est-ce qu'elle se remettra avec Nicolas Cage ou pas?
Voilà, est-ce qu'elle se remettra avec Nicolas Cage ou pas? Puisque effectivement, c'est vraiment le point central pour elle au moment où elle se rend à cette réunion d'anciens élèves. Voilà, c'est que il y a eu cette rupture et que d'un seul coup, ce qui faisait finalement ce qui définissait sa vie, s'est écroulé, quoi.
Et c'est marrant parce que d'ailleurs, tu sais qui joue la sœur de Peggy Sue?
La sœur de Peggy Sue, alors il y a qui joue dedans, je me rappelle plus. Il y a Joan Allen, mais c'est pas sa sœur, c'est sa copine.
C'est Sofia Coppola.
Ah, c'est Sofia Coppola.
C'est genre, c'est vraiment un projet familial, oui. Quoi.
Exact. C'est vrai.
Qu'est-ce que tu penses de ce film?
C'est un film que je trouve attendrissant d'une certaine façon, puisque voilà, cette nostalgie qu'on peut avoir de ces années lycées, même si c'est pas évidemment notre époque, parce que là pour le coup j'ai pas connu les années 60 contrairement à toi, Daniel. voilà, avec tout ce qu'on peut avoir aussi de références culturelles, de musicales, etc. Voilà, le casting, il est assez intéressant. Voilà, Kathleen Turner, Nicolas Cage et d'autres seconds rôles. Après, je sais pas, il y a un truc. Enfin, justement, on repassait à Retour vers le futur, par exemple. Retour vers le futur, il y a quand même un rythme et une mise en scène qui est assez folle, et puis avec un ton qui est très enlevé, qui fait que ça fonctionne à chaque fois. Là, le film, je trouve qu'il évite pas d'être un peu gnangnan, en fait, à plein d'aspects, quoi.
C'est-à-dire la morale est sauve.
Bah ouais, c'est un peu le truc, c'est qu'en fait, et je pense que c'est une véritable impasse, parce que à la fois, À la fois, tu te dis, mais t'aurais envie que ça se termine autrement. Bon, là, on va divulguer complètement, mais l'idée, c'est qu'effectivement, la morale du film, c'est que finalement, elle retourne avec Nicolas Cage. Voilà. Et à la fois, tu te dis, mais le Nicolas Cage des années 80, c'est un type qui mérite pas ce qu'on s'attarde de lui. Et à la fois, en même temps, tu te dis, le Nicolas Cage des années 60, est-ce qu'il mérite véritablement d'être puni pour ce qu'il va faire de 10, 15 ans plus tard? Enfin, bon, bref. Mais je trouve que le film est... La façon dont c'est fait, la façon dont qui l'amène finalement pour reprendre cette même décision avec voilà quelques composantes qui ont changé, il y a un truc où globalement effectivement il y a un côté, ça fait un côté un peu la morale est sauve, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment
un petit peu ils reviennent sur les rails quoi. Mais après tous ces films-là reviennent sur des rails. Tous, j'en vois pas qui genre où ils se disent, parce que il y a un truc très important de ces gens-là, c'est qu'ils ont des enfants. Dans le futur, ils ont toujours des enfants, que ça soit ici, que ça soit dans 20 ans, 20 Again, ou je sais plus comment il s'appelle ce film-là, ou dans Camille Redouble. Ils ont tous des gamins. Et du coup, le fait est que si tu changes le passé, si tu changes le futur, tes gamins ont une chance de pas exister. Quel parent ferait ça?
Moi, j'en connais qui ferait ça.
Hein. Non, mais okay. Est-ce que c'est quelqu'un qui habite quelque part en Savoie?
Non.
Donc c'est pas toi-même. Non, bien sûr, mais tu vois, chaque parent aime ses enfants et chaque parent ne renie, enfin, à part de rares exceptions, mais je vois pas quel parent ne voudrait pas que son enfant vive quoi.
Mais enfin, je suis entièrement d'accord.
C'est ça le gros problème, c'est que si tu changes le truc, ça devient une sad ending, ça devient ce que la fin cachée de Butterfly Effect, de l'effet papillon.
Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire,
on en a parlé, je crois qu'on l'a classé, hein, je crois.
Oui, on l'avait classé, ouais. Ça devient Peggy Sue fait par un Coréen, en fait.
Oui, ça devient un truc très différent, mais un truc très couillu. Et là, c'est quand même très conventionnel. La seule chose que ce truc arrive, et d'ailleurs, c'est le problème des coming-to-age comedies, c'est-à-dire qu'il faut quand même donner un peu d'espoir. Tu peux pas faire ça désespéré, quoi.
Non, mais le problème avec ça, c'est que j'entends complètement l'argument et je le trouve totalement valable. Le problème, c'est que selon moi, alors je peux peut-être me tromper parce que comme dit, c'est pas le Coppola que j'ai le plus vu décortiquer trouve le qualificatif que tu veux. Mais le problème, c'est que justement pour moi, c'est que c'est même pas tellement ça qui motive le personnage dans sa décision finale. C'est vraiment le côté, elle retombe amoureuse Nicolas Cage en fait. Tu vois, il y a vraiment.
Alors qu'il est, il a l'air quand même assez affect, et dans la vie il était pas simplement affect aussi.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est le neveu du patron, donc à un moment donné.
C'est complet. Genre, mais comment tu peux. Oui, s'il est affect, comment tu fais pour ton. Bah, tu peux pas.
Et voilà, et là le truc c'est qu'effectivement ce côté-là, si effectivement je ne vis pas avec lui, mes enfants n'existeront pas, etc. C'est un axe qui est super intéressant, mais en fait c'est pas vraiment celui qui est développé par le film pour motiver la décision de Peggy Sue. Et c'est là où je trouve qu'il y a un gros raté, c'est qu'effectivement ça pourrait être un axe tragique et là véritablement tragique, parce qu'on est face à un dilemme. Est-ce que je sacrifie mon bonheur pour l'existence de mes enfants, etc. machin. Là on est vraiment sur un truc voilà, encore une fois très gnangnan, elle retombe amoureux. Et il y a un côté un peu.
Là, et je crois qu'il
un peu bizarre de se dire.
Non seulement il a été infect au début, mais il lui a pas dit genre qu'il l'avait trompé ou un truc comme ça.
Mais si, parce qu'il est adulte.
Il est adultère.
Voilà. Et il y a un côté, en fait, elle retombe amoureuse alors que justement elle a cette connaissance-là et que finalement il y a déjà des germes. Enfin, tu vois, il y a un côté, quelque part, elle lui pardonne. Voilà. Et je trouve. Voilà. Disons que tout ça pour que le final on sauve un modèle de cellule familiale américain, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a un côté
pavillonnaire de ce que tu
voilà.
Veux dire. Petit bourgeois, c'est ça que tu veux dire.
Il y a un côté petit bourgeois qui pour le coup, enfin voilà, je sais pas si c'était ce que voulait dire Coppola en fait, parce que tu remets finalement Peggy Sue dans la filmographie de Coppola. Alors là, même si là, effectivement, on est après, c'est les grandes heures de Coppola, etc. Mais clairement, je suis même pas sûr que lui, c'est ce qu'il voulait dire, quoi. Mais au final, il y a vraiment ce côté-là, ouais, on sauve les apparences parce que ce sont les apparences. Enfin, voilà, tu vois, le côté, oui, je retombe amoureux de lui et tout. Bon, voilà, je ça en f... ça, ça ça en fait un film mignon, etc. Voilà, il y a plein de scènes qui sont pas désagréables. Encore une fois, le côté nostalgie, mine de rien, c'est quand même un truc qui fonctionne, même si c'est pas une nostalgie que toi tu as connue. Mais voilà, ça tombe un peu à plat, quoi, c'est ça.
Ouais, je suis un peu d'accord. C'est genre, c'est un peu décevant, quoi. Et puis même,
ouais,
tu, pas que tu attends plus de Francis Ford Coppola, on en a parlé ça, au début du podcast.
Oui, c'est vrai,
mais
c'est vrai.
Celui-là en particulier, il est pas. Ça aurait pu être mieux, quoi.
Ouais, ouais, c'est. Et puis même sans tomber dans un truc, effectivement, à la coréenne, je pense qu'il y a peut-être moyen, quand même, d'avoir un, voilà, un truc plus. Plus profond que ça, voilà, c'est un peu... Ou alors, justement, et c'est là, justement, où Retour vers le futur fonctionne, c'est que Retour vers le futur, à un moment donné, justement, toutes ces questions-là ne sont pas un enjeu. Enfin, la structure du film et les thèmes du film font, globalement, tu l'acceptes en tant que divertissement pur et dur, et en tant que tel, c'est un chef-d'œuvre. Là, il y a plein de trucs qui sont brassés et voilà, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris, quoi, et c'est pas, voilà, il y a pas ce côté, c'est pas assez léger, puis voilà, c'est même, voilà, il y a un problème, je pense, c'est plus dans l'écriture et la narration que vraiment dans la mise en scène, sur laquelle j'ai pas grand chose à reprocher. Voilà, donc c'est un film que je trouve pas mauvais ou quoi que ce soit, mais voilà.
Mais écoute, classons-le.
Voilà. Si je l'ai pas revu en boucle, c'est peut-être qu'il y a des raisons aussi.
Ouais, surtout, je t'ai dit, le même film existe en plusieurs versions. Dont une version française, comme tu l'as compris.
Dont une version française, c'est ça. Où est-ce qu'on
c'est
est.
C'est moins bien que Ghostbusters 2 pour moi.
Ah ouais, quand même.
Bah, c'est, est-ce que c'est moins bien que Devil's Story première fois?
Est-ce que c'est moins bien que le premier classement de Devil's Story? C'est quand même mieux que le premier. Enfin, c'est quand même mieux que Devil's Story maintenant, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait de ce classement-là? Ce classement maudit.
Ah non, oui, c'est vrai que c'est mieux que Toxic Avenger quand même.
On a mis où Toxic Avenger?
Il est 202e.
Ouais, c'est mieux. Ouais. Oui, c'est mieux que les Soudoués, tu vois.
Ouais, ouais, non, c'est vrai.
C'est mieux que les super flics de Miami, quand même, aussi. Mais c'est moins bien que American Gigolo, par exemple.
Il est où?
Putain, on a 195.
American Gigolo, putain.
Ouais.
American Gigolo et American Ninja.
À ne pas confondre, ce n'est pas la même licence.
Ouais, mais c'était... Ouais, écoute, au-dessus des super flics de Miami, ça me va.
Et si t'envisages American Gigolo comme une suite d'American Ninja, ou l'inverse, je pense que c'est intéressant.
Ça te va au-dessus des super flics de Miami?
Oui, écoute, ça me va très bien.
Et il est sous Princess Bride, que je trouve vraiment meilleur.
Ah oui, oui, Princess Bride est vraiment mieux.
Sous C'est Marié, je crois. C'est au plus...
Ouais, c'est ça, c'est Marié. Maintenant, j'ai envie de voir American Ninja avec du Blondie dans la bande originale.
Exact. Ah bah là, dans la bande originale de ce film-là, c'est John Barry.
Oui, c'est John Barry.
C'est John Barry. Et alors, tu sais quoi, à propos du casting, tu sais, on parlait de Nicolas Cage. Nicolas Cage, il voulait pas le faire, le film. Et c'est Coppola qui lui a insisté. Il a insisté. Vas-y, mon neveu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit d'accord, mais je le joue comme je veux. Et c'est là qu'est né le style.
Le mythe, ouais.
Le style,
ouais,
d'acting Nicolas Cage insupportable, puisqu'il se défonçait à ce que tout ce que tu peux imaginer, il arrivait. Il était infect, quoi.
Et, en roue libre.
Il était en guerre avec Catherine Turner, qui ne devait pas être le rôle principal. Le projet, c'était sur Debra Winger. Est-ce que tu vois qui est Debra Winger?
Debra Winger, non, ça ne me dit rien.
C'est une comédienne de maintenant 70 ans, mais à l'époque, elle est connue parce que dans les années, début des années 70, je ne sais pas si c'est début, elle était Wonder Girl dans la série Wonder Woman.
D'accord, ok.
C'est pour ça que je la connais, en fait.
c'est vrai.
Non, mais elle est connue.
Ta connaissance du Wonderlord, de Wonderverse, voilà.
Bien sûr, mais bon, c'est une comédienne assez connue, quoi.
D'accord, non, mais ça me dit rien.
Bon. Eh ben, écoute, on a classé celui-là.
Oui.
Stéphane, je te propose de balancer ta reco si t'en as une. Mais je suis sûr que t'as une reco.
Eh ben, ce sera une reco cinéma, du coup, une fois n'est pas coutume.
Incroyable.
Avec... incroyable, avec Les Graines du Figuier Sauvage, qui est sorti l'année dernière, je crois, et qui est disponible aujourd'hui.
César du meilleur film étranger, je crois, non ?
Peut-être. Je n'ai pas suivi les Césars, donc du coup, je ne pourrais pas te dire. Voilà, mes films, films iraniens de 2h47, si je ne m'abuse. Voilà, je préfère être précis.
Ouais, mais tu sais quoi, quand on regarde des films d'Hollywood, Bollywood, c'est pas...
Voilà, voilà, mais... non, mais vraiment... un film que j'ai vraiment adoré, voilà, qui nous parle en fait de la vie de d'une famille iranienne dont le père devient aspirant juge de la révolution. Alors je dis aspirant juge parce qu'il a un poste mineur dans l'administration, mais c'est, on va dire, le marchepied qui va peut-être l'emmener jusque aux plus hautes marches de la magistrature iranienne. Autant vous dire que la justice iranienne, bon, elle a certains préceptes qui sont un peu différents des nôtres, on va dire, notamment sur tout ce qui est la tolérance et les droits de l'homme. Bref, et en fait, donc du coup, il va se retrouver à devoir travailler énormément, donc du coup, laisser finalement sa maisonnée à sa femme et à ses deux filles. Et en même temps qu'il accède à ce poste-là, éclate une révolution en Iran, liée notamment au port du voile, par l'obligation du port de voile pour les femmes, et ses filles sont en âge d'être dans cette révolution, puisqu'elles ont, enfin, il y en a une qui entre à l'université et l'autre qui est encore au lycée, et donc on va voir comment cette cellule familiale va être prise un peu en étau entre cette figure patriarcale d'un côté, et puis cet élan de liberté de l'autre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, enfin, ça débute vraiment comme un drama de salon typiquement iranien. C'est un genre du cinéma iranien en tant que tel.
C'est surtout depuis la popularité de Asghar Farhadi, qui dont le cinéma tout d'un coup a explosé en France en popularité. Je sais pas si t'as vu Une Séparation, Un Héros.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
C'est donc, voilà. C'est genre il fait un peu un cinéma comme ça, mais qui slalome entre la censure iranienne. C'est surtout ça.
Voilà, parce que c'est surtout ça, parce qu'en fait, enfin, c'est un genre qui s'est développé parce que d'une part, ça permet quand même de sonder quand même pas mal de questions au cœur des problématiques de la société iranienne, et puis surtout c'est une façon de pouvoir filmer, tout simplement, puisque à partir du moment où tu vas tourner dans les rues en Iran, le fait de voir ton film autorisé ou pas, souvent ou pas, augmente. Donc du coup, voilà, c'est développé effectivement le drama de salon comme sous-genre du cinéma iranien. Et donc le film s'inscrit, les Graines du Figuier Sauvage s'inscrit là-dedans, et puis d'un seul coup, en fait, ça va bifurquer vers quelque chose d'autre, pas tant sur le fond, puisque le fond va rester le même, mais plus sur la forme, en fait. Et avec des élans esthétiques et politiques, politiques forcément, mais esthétiques et poétiques, que je trouve vachement intéressant. Et j'ai vraiment été happé par cette histoire, par les comédiennes, par ce que ça dit aussi de cette société, et puis cette façon finalement de traiter ce thème-là, du rapport au patriarcat dans la société iranienne, qui n'est pas forcément très éloigné de certaines conceptions patriarcales dans des pays qui se veulent pourtant plus ouverts, en théorie. Moi, j'ai pas vu passer les 2h47. Y a des vrais moments de pure tension visuelle par le montage, et à la fois il y a des vrais moments de construction de personnages, d'existence, et puis même de rapport. C'est comment est-ce qu'on vit cette révolution depuis l'intérieur d'un appartement, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont hyper hyper intéressants. Enfin, ça fait partie de je l'ai vu en retard, puisque je l'ai vu que là, mais ça fait partie des grands films.
Il n'y a pas de mauvais moment pour voir un film, tu sais.
C'est ça, ouais. Mais ça fait partie des grands films de 2024 pour moi, quoi.
Eh ben écoute, moi, c'est un grand film que j'ai vu en 2024, mais qui sort qu'aujourd'hui, et c'était mon film de l'année dernière, en fait. Qui vient de sortir...
Parthénopée, c'est ça?
Non, t'es con. C'est Black Dog. Est-ce que t'en as entendu parler?
Oui, j'en ai entendu parler.
Il a reçu le Caméra d'Or du prix Un Certain Regard, donc c'est quand même un film vraiment passionnant. Et en même temps, c'est un film particulier, parce que c'est un film un peu contemplatif, comme peuvent l'être souvent les films chinois, notamment Jia Zhenke qui joue un rôle dans ce film-là. Et donc, tu vois, on n'est jamais...
Comme quoi, il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Et donc, c'est réalisé par Gong Fu. Et donc, c'est l'histoire d'un cascadeur montard, et qui retourne dans sa maison qui se trouve dans le désert du Gobi. Et alors il a été en prison, et donc il revient, et il reprend sa vie. Et le truc, c'est que il se amourage d'un chien. Voilà, c'est ça dans l'histoire, c'est qu'il devient pote avec un chien, et c'est absolument génial. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on voit des endroits que tu verras jamais dans ta vie, quoi. À ce moment de l'histoire de la Chine, c'est le moment où ils se préparent pour les Jeux Olympiques. Donc tu sens qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être faites, il y a plein de choses qui sont en train d'être détruites. Et donc c'est vraiment, ils te le filment, cet endroit de Chine, comme si c'était un monde qui va disparaître, quoi. Et en même temps, c'est aussi le désert. C'est très particulier et c'est magnifique. Le décor joue tout autant que les personnages, tout autant que le chien. Le chien est vraiment... Enfin, c'est vraiment... Je trouve que c'est un très 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 beau film. Je t'ai dit, c'est contemplatif, mais ça dure pas 2h30, hein, c'est moins de 2 heures. Et ça parle de personnes chinoises en 2008, mais les gens sont en souffrance, quoi. Mais il y a une lueur d'espoir, c'est ce chien. Voilà.
Eh bien, écoute, voilà, il fait partie de ma liste.
Je pense que tu vas... Et en fait, évidemment, l'idée, c'est qu'ils vont se trouver, quoi. C'est-à-dire que le chien, il va rencontrer le mec, et le mec... Et c'est deux personnes qui, tout d'un coup, vont prendre un nouveau départ dans la vie, quoi. Il y a des scènes absolument hallucinantes, hein. Il y a une scène où il y a un bus qui s'est renversé, et les mecs qui sont en train de le pousser. Enfin, c'est vraiment... C'est des trucs que tu vois pas dans le cinéma habituellement, quoi. Je vais aller le revoir. Ben, c'est une certitude, je vais aller le revoir. Je trouve que c'est vraiment superbe.
Eh ben écoute, ouais, moi il fait partie de ma liste, donc voilà, dès que j'ai l'occasion, je le vois.
Je m'étais dit, de quoi je parle, Black Dog. C'est, écoute, il vient juste de sortir. J'ai vu, un film qui s'appelle The Rift, ou je sais plus comment il s'appelle, The Edge. C'est un film sur Apple Plus avec.
Oui, j'ai vu aussi.
Tu l'as vu?
J'ai vu aussi. C'est à mon sens, c'est la meilleure adaptation en cinéma de Resident Evil, en fait.
Ça m'a fait penser.
The Gorge,
voilà. Ça m'a fait penser à Resident Evil, ouais, mais qui.
Mais c'est complètement Resident Evil, attends.
Avec le côté le fossé, l'album d'Astérix.
Oui. Et moi, je trouve que c'est un film hyper crédible parce que c'est globalement l'histoire d'un mec qui, on lui dit, tu vas rester pendant un an tout seul dans ta tour en béton, et qui se dit, ouais, fuck l'humanité, je préfère aller baiser Anna Taylor-Joy qui est de l'autre côté de la... et moi, quand il a fait ça, j'ai fait, ok, gars, je comprends, ok, validé.
Ben, plutôt que rester tout seul, tu sais quoi, autant tuer le temps à deux. Hein.
C'est ça, exactement, quoi.
Mais tout est improbable dans ce film-là. On est d'accord?
Ah, ça ne tient pas
debout, hein.
Non, non, mais il y a tellement de questions sur l'existence même de cet univers. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas spoilé pour dire que au fond de la gorge qui sont censés garder, il y a des trucs qu'on n'a pas envie qu'ils sortent. Hein. Enfin, globalement, c'est voilà. Mais oui, il y a tellement de trucs sur cette construction d'univers. C'est pourquoi est-ce qu'ils se font déjà autant chier comme ça? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné,
ils n'ont pas tout pété déjà de avant?
Oui, puis surtout, même si tu voulais garder le truc, pourquoi est-ce que tu mets pas des caméras dans les tours de contrôle?
Bah oui.
Rien que ça. C'est genre, quelle est la fonction pour que t'aies des caméras pour surveiller certaines parties de l'univers que les personnages ne sont pas censés découvrir, mais qu'ils découvrent quand même, mais on le sait parce qu'on les a vus sur des caméras, alors que les endroits où ils sont censés être et ne pas bouger, t'as pas de caméra pour surveiller qui reste là où ils sont. Enfin, tu vois, plein de questions que je me pose. C'est nul, mais j'ai trouvé ça divertissant, en fait.
C'est nul et divertissant, et les musiques sont signées très très nord, j'ai remarqué.
Ouais, alors c'est le
c'est pas le truc, c'est pas son meilleur,
C'est alors, j'ai meilleur taf.
Et, globalement, quand j'ai vu qu'effectivement les musiques étaient signées Trent Reznor et Atticus Ross, la première chose qui m'est venue à l'esprit en terminant le film, c'est ah, il y avait de la musique dans le film.
Ouais, c'est-à-dire moi, c'est que... surtout des bruitages que j'ai entendu.
Ah, mais moi, j'ai aucun souvenir d'un passage avec de la musique. Mais vraiment, c'est y a rien qui m'a marqué ou quoi que ce soit. Alors que voilà, enfin, Reznor, Atticus Ross, on refait pas le tableau. Leur collaboration, évidemment, avec Fincher, mais aussi sur la série Watchmen, et évidemment l'existence de Nine Inch Nails. Par ailleurs, la BO de Quake aussi. À l'époque pour Trent Reznor tout seul, mais là globalement j'ai terminé le film, je me suis dit ah, il y avait de la musique dedans, j'en ai aucun souvenir. Alors du coup quand j'ai vu qu'en plus c'était Atticus Ross et Trent Reznor, je me suis dit mais waouh, quel gâchis impérial, parce que il y a pas un seul moment où la musique je l'ai ne serait-ce qu'entendu dans le film quoi.
Et c'est voilà. Réalisé par le mec qui a fait Doctor Strange.
Ouais voilà,
qui s'est échappé de Marvel quoi.
Qui s'échappait de et ça se sent un peu, c'est-à-dire que c'est un film de semi-bonnes idées en fait.
Ouais, s'il y a des bonnes idées et l'exécution est genre ok,
c'est ça, voilà, c'est ça, c'est vraiment c'est Scott Derrickson, c'est quoi, effectivement.
C'est un film de plateforme honnête.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Scott Derrickson, il c'est très très étrange parce que il a ce côté, c'est pas un tâcheron, mais c'est pas un artiste non plus quoi. Ouais. C'est le mec qui voilà, il, de temps en temps il a des idées, mais effectivement il les met en scène de façon ok, mais ça va jamais, c'est jamais exploité à son plein potentiel, ou c'est jamais aussi puissant que ça pourrait l'être, etc.
Mais voilà, mais c'est que filmé dans de manière très correcte.
Voilà, c'est filmé de manière correcte, etc. Et encore une fois, quand tu le prends comme une adaptation de Resident Evil, parce que globalement, le scénario est aussi débile qu'un jeu Resident Evil. Hein.
Il manque juste un dernier boss, quoi.
Il manque juste, mais globalement, tout y est. Tout le reste y est. Mm-hmm. Enfin, le compte à rebours, enfin, vraiment, je fais putain. Et c'est quand même beaucoup...
Il y a
beaucoup...
même la quête, il faut s'abriter dans une église.
Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Il y a vraiment tout ce que tu veux d'un Resident Evil, et c'est quand même vachement mieux que tous les Paul Anderson réunis. Donc,
est-ce que tu te souviens du nom du comédien? Attention, sans te tromper.
Alors, c'est Ty Sheridan, c'est lui?
Non, c'est pas Ty Sheridan. C'est l'autre. Alors, ah, t'as vraiment l'autre. Pensé que c'était Ty Sheridan?
Oui. Oh, alors, c'est Miles Teller, c'est ça?
C'est Miles Teller.
Ouais. Ouais, putain, ouais, non mais voilà, je suis peut-être un peu raciste, mais pour moi tous les blancs se ressemblent quoi, enfin tu vois,
non mais tous ces mecs là c'est vraiment, ils ont la même gueule quoi.
Ah, mais non mais c'est ça,
et il y en a un troisième qui a la même gueule et j'ai oublié son nom.
Oui c'est vrai, mais je vois pas de qui tu parles du coup, mais effectivement je suis d'accord qu'ils sont trois,
ils sont
mais
trois.
J'ai plus de casse.
Bon, c'était okay. Mais c'est sur Apple Plus et c'est leur plus gros launch ever.
Ouais, et ben
incroyable quand même, hein. Quand tu vois le truc, tu fais ah ouais, ok, d'accord.
Par contre, il y a un truc qui me fascinera toujours, c'est pourquoi est-ce que les gens s'évertuent à faire jouer des personnages russes à Anya Taylor-Joy?
Je ne sais pas.
Quel est le...
Et j'avais envie de taper ma télé quand j'ai vu ça. En plus, elle joue pas une russe, elle joue une lituanienne.
Lituanienne, ouais.
Mais au service de Moscou.
Au service de Moscou, quoi. Mais c'est un truc, je pense que ça doit représenter la moitié de sa carrière aujourd'hui.
Si tu additionnes les épisodes de la série télé, là, le truc d'échec, là, encore plus.
Ouais, t'es là, alors que globalement, elle est américaine, elle a vécu en Argentine, donc globalement assez loin du bloc de l'Est, quand même, quoi. Voilà, c'est un truc. Parce que je pense qu'en fait, la façon que je me suis faite, c'est que dans l'imaginaire collectif, son physique correspond à l'idée de la caricature de la femme russe, en fait.
De la femme russe, ouais.
Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est aussi con que ça.
Je pense que c'est ça, hein. Il n'y a pas de...
Parce que je me suis dit, mais...
Ah, mais elle joue pas une russe dans le truc d'échec, justement.
Ah non, elle affronte des russes.
Mais t'as raison, elle est plus argentine que...
Oui, mais par exemple, c'était dans le film, là, The Northman, où elle joue une prisonnière qui vient d'Ukraine, peut-être, je crois même, carrément. Quelque chose comme ça, enfin voilà, c'est...
Non, mais attends, elle était dans Northman, elle jouait, une russe. Où est-ce qu'elle jouait? Ah, mais elle a pas joué dans New Mutants. Elle jouait Rasputin.
Oui, elle jouait Rasputin. Voilà, Yana, c'est ça.
Elle jouait
ça.
Yana. Elle jouait Magic.
Ouais, exact. Non, elle jouait Magic.
Et Furiosa, elle avait un accent ou pas? Je sais même plus.
Alors, je sais même plus si elle avait des dialogues dans Furiosa. Donc, c'est de dire.
Oh, elle devait parler quand même.
Je sais pas.
Bon, Stéphane, on va arrêter de parler de tout ça. Je voulais recommander Assassin's Creed. Astrid, mais bon, peut-être on n'a plus le temps hein, maintenant. Astrid, Japon, je suis dessus, je suis à 30 heures. Normalement, à l'heure où il est, j'ai fini de monter l'épisode. Mais là, je parle avec une semaine d'avance. Donc, normalement il est sorti ou va sortir incessamment sous peu. Je suis assez satisfait d'Assassin's Creed Japon. Je pense qu'on va encore en rediscuter dans After Eight. Stéphane, il faut que je te fasse un rappel avant de rappeler aux gens de nous soutenir sur patreon.com/rpu.
Oui, et que tu l'as fait en début d'émission.
Ouais,
donc
t'as vu, là, c'est un double rappel. Notre record.
On progresse.
C'est notre record absolu. Stéphane, il faut que je t'informe que bientôt les blockbusters arrivent.
Oui.
Il faut faire le classement des blockbusters.
Le classement dans le vent, c'est ça. C'est ça.
Je pense qu'en général, on le fait quand c'est début avril, quoi.
Voilà, et là, il y a eu quoi ? Il y a eu Captain America qui est sorti.
Il y a 3 Marvel cette année, mon gars.
Oh, ouais, sans rire.
Bah, y a ah oui,
il y a
Thunderbolts.
Ah oui, je sais pas pourquoi j'appelle Cosmo Cats dans ma tête.
Et pourquoi ? Je ne sais pas.
Je sais pas non plus, ça n'a rien
alors,
à voir.
Alors, il y aura beaucoup d'accents russes, puisqu'il y a Florence Pugh qui fait l'accent russe. Il y a Red Guardian, évidemment,
Red Guardian.
Qui fait l'accent russe. Enfin, beaucoup d'accents russes à prévoir. Et par contre, Winter Soldier, il a perdu son accent, donc tout va bien.
bah, il est infiltré maintenant.
Bah oui, maintenant il sait le faire.
maintenant, il est redevenu Bucky.
Maintenant,
quoi,
il imite Trump.
oui, c'est vrai.
Bon, ah, tu l'as vu, d'ailleurs ?
Non, toujours pas.
Ah, tu vas y faire. Je pense que c'est. T'en as besoin pour canaliser quelque chose, là.
Mais du coup, tu parlais de 3 Marvel, c'est quoi les... Parce que.
Et Fantastic Four.
Ah oui.
Ah ouais. Fantastic Four, c'est peut-être celui auquel les gens le croient le plus.
Ouais. Allons.
Puisque t'as deux secondes, t'as une minute. Captain America, non ? C'était pas bien.
Non, c'était pas très bien. C'est pareil. Enfin, après Love and Thunder, enfin après toutes ces merdes qu'on s'est tapées, oui, c'est mieux. Maintenant, c'est hyper random. Enfin, et puis surtout. Le film, enfin, au moment où il sort, il est regardé instantanément par l'actualité parce que c'est quand même un film qui te dit que peu importe
le président, il peut y arriver s'il y croit.
Voilà, c'est ça. Peu importe qui est le président, la fonction sera toujours plus grande que l'homme et finira par rendre l'homme meilleur. Quoi. Enfin, c'est littéralement le message du film, quoi. Et quel acte manqué. C'est vraiment manqué, quoi.
Mais il paraît que, de tout ce que j'ai entendu, Anthony Mackie n'est pas un mec très cool en plus. Donc, j'ai vu ça aujourd'hui. Genre, il s'est mais il a pas l'air très très droit dans ses bottes, quoi.
D'accord, bon, je connaissais pas.
Paraît qu'en interview, il est pas très sympa. D'après ce que j'ai, ce que j'ai ouï dire.
Mais bref, non, c'était pas très bien. C'était pas très bien. Alors il m'a fait me rappeler qu'il y avait le Hulk de Louis Leterrier qui existait.
La suite cachée du Hulk de Louis Leterrier et la suite cachée d'Eternals. Et voilà. Ça, bravo. Moi j'ai envie de dire le courage, monsieur.
Mais Eternals que je déteste pas. Hein.
Eternals je trouve que c'est un des plus valables de ce.
Ah clairement.
Genre il y a une vraie vision, quoi. Il y a une vraie envie de faire quelque chose.
Ce que je veux dire, Eternals, à minima, c'est un film qui a un minimum d'ambition visuelle, quoi.
Et il y a Madong Tsuk.
Oui, et Madong Tsuk dont le pouvoir est de foutre des grosses beignes.
Il foutre des grosses beignes. Je pense qu'il foutra plus de beignes ici que dans Death Stranding 2.
Il joue dans Death Stranding 2.
Ah, t'es pas au courant, il est dans Death Stranding 2. On le voit une seconde dans le trailer, mais je pense qu'il aura pas de rôle.
Oh, c'est dommage.
Je pense qu'il fait juste un caméo.
Quel gâchis.
Ouais. Bah écoute, on en reparlera quand on sortira Death Stranding 2 dans juin.
Bah oui.
Bah écoute, on se dit qu'on boucle le podcast. Merci de nous avoir soutenus. Super Ciné Battle est disponible sur toutes vos applis et sur le site internet supercinébattle.fr. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt pour le 224e qui risque d'être un season final donc.
Possiblement.
Bah, on se garde ce possiblement en tête. Rendez-vous pour le grand final des années 80 dans le prochain épisode. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Ciao à tous.
Par contre, j'ai rien ouvert comme fenêtre.
En même temps, c'est encore l'hiver, donc c'est peut-être mieux. Tu les as attrapés froid si jamais t'as ouvert des fenêtres, tu vois.
T'as enregistré ça ?
Oui, bah évidemment que j'ai enregistré. C'est pas la première chose que j'enregistre.
Quelle honte, quelle indignité. De quoi on va pouvoir parler ? Pas de politique. Hein.
Bah surtout pas, surtout pas. De politique, ça c'est pas notre créneau, donc nous on fait pas.
Et tu sais quoi, il faut se contenter de tester les jeux vidéo, de parler de cinéma.
C'est
ça.
Il
faut pas faire ça.
Ouais, parce que
c'est un truc qui revenait hein, parfois. Genre les gens ils disaient ah j'adore quand tu parles de jeux vidéo, mais s'il te plaît parle pas politique.
Ah oui, mais non, mais bien sûr.
Enfin, pas à moi directement, mais à d'autres gens, ça pouvait.
Non, arriver. Non, mais c'est quelque chose qui arrivait. Et puis même sans parler politique, c'est qu'à un moment donné, les mecs disaient oui, testez vos jeux et c'est tout. Enfin, tu vois, genre, je me rappellerai toujours les mecs. Qui sur le on en revient toujours à la même histoire, mais sur le test de Wolfenstein me reprochait de mettre dans les points positifs que tuer des nazis c'était un point positif du jeu quoi.
Et pourtant elle tourne
exactement.
Voilà, c'est bon, moi j'ai la liste affichée à mes côtés. C'était le 222, c'était la dernière fois.
Oui, alors je te fais entièrement confiance là-dessus.
Putain, c'est vraiment ton niveau de préparation atteint le plus zéro.
Et bah,
tu sais, il y avait le zéro absolu, et bah c'est toi.
Ça. Je suis autant préparé que certaines administrations face à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.
Ah, j'ai une bonne nouvelle. Ah, tu sais quoi, j'ai fait le podcast de Calmos. Ils ont fait un proto-podcast.
Oui.
Et c'était compliqué hein, parce qu'il fallait parler d'un film que tu connais pas. Il te décrivait un film que tu connais pas.
Ah d'accord, ok.
Et alors moi, il y avait une liste de films et j'ai dit, je l'ai jamais vu.
D'accord,
donc,
c'est vrai.
Pendant 2 heures et... Non, j'ai jamais vu.
Alors en plus, pour essayer de te décrire même un peu.
Pendant 2 heures et demie, il y a Hugo Alexandre, les yeux dans les yeux, qui m'explique. Il fallait être très pédagogue, c'était chaud. Mais voilà, c'est leur concept podcast. Mais
d'accord,
bon, ça permet de parler de trucs et tout ça. Mais bon, je vais pas le mettre tout ça parce que sinon ça va spoiler leur podcast.
Bah ça, oui, ça va griller leur.
Mais ils m'ont posé la question de combien on a classé de films depuis le début.
Bah je sais pas. Alors si, on a moyen de savoir parce que il suffit de compiler les.
Alors j'en vois 376. Les années 2010, il y en a pas loin de 200. Donc déjà, on va compter 500. Années 80, il va en avoir 300.
Donc on est déjà à 800.
Moi, j'ai dit 1500 à vue de nez, mais peut-être pas. Hein. Ah si, 200 dans les années 70.
Donc ça fait 1000.
1000. Ouais, 80 dans les années 60, ça baisse.
Ouais, ça baisse.
Et 44 dans les années 50.
Donc ouais, 1100, écoute.
Oui, voilà. Ça, moi j'avais dit 1500 à la vue de nez. Mais
bon, voilà, écoute, non, mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est vrai que moi, tu m'as posé la question, j'aurais pas été capable de te répondre.
Et bah, avant qu'on commence, juste, qu'est-ce qu'on fait dans le prochain? On change de... Je te propose d'arriver à 225. On change de saison à 225. Donc,
ça me va. Au début, je me suis demandé, quand tu avais posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast? Bah écoute, ça tombe très bien, bah, les gens nous envoient des listes et puis on les classe. Et...
Je vais pas recommander Parthenope.
Ah oui, putain, ça a l'air mais tellement chiant quoi. Enfin,
honnêtement, c'est un des pires films que j'ai vu tout court. C'est nul, c'est d'une connerie. Tu sais, c'est genre, elle est belle. Et tu vois, genre, mais comme elle est belle, bah, tu vois, la ville aussi, elle est belle. Et en fait, elle, c'est une métaphore de la ville. Et, mais qu'est-ce qu'elle est belle? Et tout le monde dit, ah, mais elle est intelligente. Tu la vois jamais être intelligente. C'est terrifiant. c'est un film d'une misogynie profonde, en fait.
D'accord, je vois. Ouais. Non, mais ça a l'air vraiment nul. Enfin, j'ai vu le truc, je me suis dit, waouh, j'ai vu les gens en parler, j'ai vu le descriptif et tout, j'ai fait waouh, c'est vraiment ça, ça a l'air d'être tout pas pour moi quoi.
Improduction RPU.